à plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Une deuxième partie consacrée aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine américaine, au livre de Cécile Gilbert. Bonjour.
Bonjour.
L'ouvrage intitulé donc « Warhol Spirit », publié chez Grasset. Donc un artiste évidemment emblématique. Nous évoquions hier l'année 68 aux États-Unis avec André Caspi, un artiste emblématique de ces années-là. On va voir avec vous Cécile Gilbert et des précédentes également, et puis des suivantes. Un titre donc Warhol Spirit qui résonne comme une marque ou un produit dissolvant et qui convient à cet artiste touche-à-tout, agitateur d'idées et de concepts, qui rêvait en guise d'épitaphe sur sa pierre tombale ni date ni nom, mais cette seule mention « produit ». C'est ce que j'ai appris dans votre livre. Il disait ça en 1985, à peu près moins de deux ans avant sa mort en février 1987. D'ailleurs, son nom, Cécile Gilbert, n'est pas exactement le sien. Il a bien failli se choisir pour pseudonyme Morningstar, qui lui plaisait quand il était petit. Ça aurait donné donc Andy Morningstar. Très, très curieux, évidemment. Peut-être l'indice d'une autre destinée possible pour cet artiste. Donc, de cet artiste polymorphe, inventeur du pop art, devenu presque un mythe de son vivant avec sa figure iconique et provocatrice, vous proposez, Cécile Gilbert, donc un portrait réticulaire et composite, une œuvre de montage qui alterne texte et réflexion, citations et images, dans une mise en page très, très graphique, même design, on pourrait dire. Alors, sur les relations avec la publicité, puisqu'Andy Warhol commence dans la publicité, vous avez dans votre livre, au début de votre livre, mise en perspective comme ça, et c'est très significatif, plein de sens, deux périodes de sa vie. Vous dites donc que dans les années 50, ses illustrations maniéristes de souliers et ses campagnes publicitaires valent à Andy Warhol, de la part du magazine Woman's World Daily, le sobriquet de Léonard de Vinci de la chaussure. Et puis ensuite, au début des années 60, finalement seulement 10 ans après, sa Campbell Soup, une de ses œuvres les plus célèbres, donc, est surnommée la Joconde des temps modernes. Alors, il y a dans cette espèce de mise en perspective aussi un retournement, un détournement, et à travers ces deux dates, finalement, une belle continuité, Cécile Gilbert.
Oui, c'est amusant cette référence à Léonard de Vinci, parce qu'a priori, rien ne sont plus opposables que le grand artiste de la Renaissance et Andy Warhol. Ceci étant, ce sont tous les deux des artistes totales qui se sont investis dans les coordonnées métaphysiques qui étaient les leurs. Alors c'est vrai qu'Andy Warhol commence sa carrière comme un illustrateur publicitaire, c'est-à-dire qu'on lui passe commande pour des magazines et il fait merveille parce qu'il a un trait assez, assez élégant. Il a toujours eu un trait élégant, en fait, hein. Voilà, et en fait il va vouloir rentrer dans la sphère de l'art, c'est-à-dire c'est une décision assez volontariste de sa part, et le terrain du pop art était déjà investi en fait, hein, au moment où il se lance là-dedans. Il y avait Lichtenstein qui faisait utiliser la
Mais
bande
ils sont
dessinée,
presque contemporains.
Il y avait Rauschenberg, ouais. Mais il décide, lui, de rentrer dans l'art. Il ne se contente plus, il gagne beaucoup d'argent, mais il ne se contente plus de rester simplement dans le domaine de l'illustration. Et donc, il va faire ce fameux geste emblématique qui consiste à peindre une bouteille de Coca-Cola. Il y avait deux façons de le faire. Soit une manière très manuelle, très tremblée, qui est celle qu'il a essayé dans un premier temps, et puis une manière froide, impersonnelle, neutre, qui a été celle de la sérigraphie. Et il a montré à un marchand d'art, à un galeriste, ces deux œuvres, en demandant ce qu'il préférait, et le galeriste lui dit indiscutablement la manière neutre, répétitive, froide de la sérigraphie. Et à ce moment-là, il s'engouffre dans cette brèche et commence la série de sérigraphies des années 60, 62, Marilyn, Elvis, etc., qui le lance dans le pop art. Il n'en est ni le précurseur, mais on va dire que si on regarde l'histoire du pop art, il va rafler la mise du pop art.
Oui, ouais. Alors le lien avec la publicité, il est réel tout au long de sa vie finalement, puisqu'il va continuer à faire des pubs aussi, même obtenir des prix, des grands prix internationaux de publicité.
Ben oui, mais si vous voulez,
tout en poursuivant par ailleurs sa carrière d'artiste et d'une manière de plus en plus ramifiée, puisque non seulement il fera de la peinture, mais du cinéma, des happenings.
Si vous voulez, la question de la publicité, c'est la question c'est la question c'est une question ultra moderne par excellence. C'est-à-dire que Warhol est un des premiers à comprendre que effectivement la communication, la publicité, la célébrité, tout ça est nécessaire dans une carrière quelle qu'elle soit. Et il va en jouer merveilleusement. Si vous voulez, ce qui est très compliqué avec Warhol, c'est qu'il est tout souvent considéré comme un cynique, un opportuniste qui a utilisé tout ce qui était à portée de main. Et en même temps, il y a une grande innocence chez Warhol. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un capteur de son époque et il sent que tous les paramètres vont changer. Il sent que l'art sera plus jamais l'art au sens où on l'entendait classiquement. C'est-à-dire que tout ça est irradié par le business, tout ça est irradié par la pub, la communication. C'est pas un hasard si tous les épigones de Warhol, tous les artistes d'aujourd'hui sont des épigones de Warhol. D'une certaine façon, c'est pas qu'il ouvre cyniquement cette porte s'ouvre, si vous voulez, comme métaphysiquement, et lui s'y engouffre, et tout le monde a ses suites. Bien sûr qu'il va toujours être amusé par la publicité, parce qu'il vit quand même en Amérique. Il se livre à un panégyrique de l'Amérique, souvent exacerbé, et donc qui est tellement exacerbé qu'on peut penser qu'il est une forme d'ironie, hein, parce qu'il sait très bien qu'en fait, ce qui intéresse aux États-Unis, c'est de vendre et acheter, et c'est de gagner de l'argent, c'est le fameux rêve américain. Et lui-même, fils d'immigré, est d'une certaine façon un produit de ce rêve américain.
Immigré tchèque.
Voilà, ses parents, son père est venu, son père était un ouvrier métallurgiste qui a immigré. Dans les années 10-20, aux États-Unis, Andy Warhol est né là, d'une famille ouvrière pauvre, et donc, comme tous les pauvres, fasciné par la réussite, la richesse. Donc il va y arriver, il est une incarnation de ce rêve américain, il va finir par devenir cette icône totale, en fait, ouais. Parce qu'il touche à la pub, mais il touche aussi, comme vous l'avez dit, au cinéma, au graphisme, à la direction artistique, il
fait toutes des les formes de l'image, disques. Finalement.
Voilà, aussi, tout ce qui est en train de devenir, comme disait Debord, la société du spectacle, si vous voulez, il en fait partie, et il est comme Duchamp l'a été à son époque. Duchamp était un fossoyeur de la peinture à son époque.
Il y a eu une rencontre, d'ailleurs.
D'une certaine façon, si vous voulez, Duchamp est le maître de Warhol, hein, d'une certaine façon, façon non avouée, oblique. C'est le maître de Warhol, dans la mesure où il suffit maintenant qu'un artiste dise « ceci est de l'art », c'est de l'art. Mais si vous voulez, les critères de l'art ont complètement explosé. Duchamp a arrêté de peindre pour montrer effectivement le néant, ce qui était devenu l'art. Warhol, d'une certaine façon, même s'il a encore sa main qui intervient sur les sérigraphies, se rend dans une procédure mécanique. Et son cinéma est tout autant ça, un prélèvement de morceaux de réalité au sens de Duchamp.
Alors, il y a ce nom qui est important, puis il y a aussi celui de Tristan Tzara et Dada derrière lui, pour Warhol, hein, comme référence.
Oui, alors Warhol disait de façon un peu comme ça, pas très approfondie, que Pop était un autre nom de Dada.
Oui, bon, le pop art. Ouais.
C'est plus alors, si vous voulez, si on peut dire, il faudrait rentrer un peu dans quelque chose de plus philosophique, si vous voulez. Si Dada incarne un moment du nihilisme du XXe siècle, qui consiste à accélérer la décomposition des valeurs à la suite de la guerre, qui a montré l'absurdité des choses, etc., dans une sorte de geste radical, négative, et extrêmement quand même violente et déstructurante, la geste du pop art n'est absolument pas celle-là, puisque le pop art consiste, d'une certaine façon, à utiliser de façon ludique, sans jugement de valeur, etc., tous les objets de la consommation. Mais d'une certaine façon, les deux gestes qui ont l'air comme ça opposés sont, à des moments différents de l'histoire, une façon de se détourner de la vieille catégorie des beaux-arts, en fait, au sens classique. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que Warhol disait que Pop peut-être était un équivalent de Dada. Mais enfin, c'est pas exactement, on n'est pas exactement sur la même histoire. Hein.
Alors, à propos du lien, effectivement, avec la publicité, le rêve américain, la manière dont parfois, effectivement, certains de ses gestes, certaines de ses œuvres font finalement une critique assez peu métaphorisée, assez claire, du système américain. Il y a aussi une autre façon d'évoquer la carrière d'Andy Warhol dans cette perspective, ce que vous faites aussi en partie, Cécile Gilbert, dans votre livre, puisque vous parlez de cette sérigraphie Flowers, qui fait partie aussi de ses œuvres bien connues, qui a été dans les années 60 vendu pour 1000 dollars. En 79, Gordon Locklear propose de racheter le tableau pour 40 000 dollars. Cinq ans plus tard, Ivan Karp en offre 125 000 dollars. En 1980, Warhol estime l'œuvre à 200 000 dollars et elle en vaut aujourd'hui plus de 1 million.
C'est sûr que la cote de Warhol ne cesse d'augmenter au fil du temps. Bon, aujourd'hui, même encore quand il y a des ventes publiques, ses œuvres font des scores absolument mirobolants. Je pense pas que Warhol ait voulu condamner la société américaine. La grande force de Warhol, c'est qu'il condamne rien, justement. C'est qu'il ne porte pas de jugement de valeur sur quoi que ce soit. Contrairement à nous, qui pensons, selon qu'on est marxiste ou pas, ou libéral, que ça c'est bien, que le capital c'est bien, que le capital c'est l'exploitation, etc. Lui ne porte aucun jugement de valeur. Il se contente de capter tout ce qui est et de le recycler à l'infini dans toutes sortes de choses. Il est, mais d'une certaine façon, neutre et passif. Moi, ce que je voulais surtout faire dans ce livre, parce que Warhol, si vous voulez, on bavarde énormément sur lui, on mélange un peu tout, on mélange justement la pub, l'argent, l'art, ce que c'est devenu. Bon. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que il a une vraie position, mais non idéologique. Hein. C'est une position plutôt de sagesse. C'est quelqu'un qui est ouvert à tout, qui accueille tout, un peu comme un sage chinois, un sage taoïste. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de parler.
Vous citez beaucoup Chuang Tzu dans votre livre.
Parce qu'il s'est écrit, si vous voulez, des dizaines et des dizaines de livres sur Warhol. J'en ai des rayons entiers chez moi. J'ai tout acheté, ce qui était paru en anglais, en allemand, en français. Personne ne s'est jamais intéressé à ce que disait Warhol. C'est-à-dire que tout le monde s'est intéressé à la production d'imagerie absolument hallucinante qu'il a pu produire en tout domaine. Personne ne s'est intéressé à sa parole. Et sa parole était considérée comme celle d'un imbécile ou d'un crétin qui disait n'importe quoi. Mais en fait, quand on y regarde d'un peu près, il a quand même publié 8 ou 9 livres. Bizarrement, c'est justement les seules choses qui ne sont jamais vendues de Warhol. Quand j'ai voulu les acheter, je suis encore tombé sur les éditions originales de l'époque. C'est-à-dire que les stocks sont toujours là. Ça ne se vend pas, ça n'intéresse personne. Et quand vous y regardez d'assez près, vous voyez que...
C'est beaucoup exprimé dans la presse aussi.
Aussi, ouais. Il y a eu des livres d'interviews de lui qu'il a donné dans des magazines. Et au milieu de tout ce verbiage qui a l'air un peu superficiel et qui est un petit peu...
Et si j'en juge par votre livre, Cécile Guilbert, il a également rédigé un journal.
Aussi, qu'il a dicté à sa secrétaire tous les matins. Ouais. Parce qu'il n'écrivait pas au sens d'un écrivain classique, évidemment. Il ne tenait pas une plume ou une machine à écrire.
Vous le citez, ce journal.
À ses assistants qui transcrivaient et après corrigeaient, les livres sortaient. Et au milieu de tout ce verbiage qui a l'air de celui d'un crétin, il y a des traits absolument cohérents qui reviennent sans cesse et qui sont qui sont véritablement des aphorismes et qui ouvrent à toute une philosophie de Warhol, entre guillemets. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Ma philosophie de A à B », dans lequel se déploie une parole, comme je viens de vous le dire, très cohérente, très claire, sur un certain rapport avec le vide et le néant. Bon. Donc ça, c'est me semblait un aspect de Warhol totalement inédit, méconnu, et qui permet d'éclairer à la fois bon nombre de ses œuvres, bon nombre d'actes biographiques aussi, bon nombre de choses dans sa vie. Et c'était surtout ça que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de montrer un personnage qui est une sorte de saint paradoxal, si vous voulez. C'est quelqu'un qui n'est pas un ironiste, qui est un candide.
On le voit en photo avec Jean-Paul II, d'ailleurs.
Il était catholique.
Catholique, oui.
On a su plus tard qu'il allait à l'église très souvent, etc. Bon, il faut dire aussi que vous parliez de l'année 68 tout à l'heure aux États-Unis. Bon, c'est une année où il a été révolverisé, oui. Victime d'un attentat. Bon.
Par une des actrices.
Par une actrice d'un de ses films. Ouais. Voilà, et qui est une militante féministe dure. Et c'est pas évidemment anodin, si vous voulez, c'est comme quand Samuel Beckett se prend un coup de poignard ou que c'est pas anodin.
Il a failli en mourir, en l'occurrence.
Il a failli en mourir.
Le foie, la rate, les poumons transpercés.
Tous les organes abîmés, il aurait jamais dû se relever d'un tel attentat. Néanmoins, il s'en est sorti et il est comme ressuscité, si vous voulez. Il a vu l'autre côté. Il a vu l'autre côté de la chose.
Alors, je parlais au début, à propos de votre livre, Cécile Guilbert, d'une structure réticulaire faite de toutes sortes d'éléments. Alors, il y a en particulier donc, ces textes qui sont là, notamment des extraits de son journal, et que vous avez... Alors, c'est évidemment lié à la mise en page très particulière du livre, mais que vous avez mis en valeur, parfois, notamment sur cette page toute noire, donc le texte d'un extrait du journal, un aphorisme assez glaçant, faut bien dire, le vide est en train de s'emparer de la planète. Et vous le disiez, le vide, c'est un des thèmes métaphysiques constants de ses propos, de sa pensée, de ses préoccupations.
Oui, alors si vous voulez, lui, quand il dit le vide, c'est une notion en fait qui est souvent à double tranchant. C'est-à-dire que c'est le vide au sens de l'esprit du vide qui souffle, au sens où aujourd'hui, bon, c'est glaçant, mais c'est quand même un constat assez raisonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la réalité, si vous voulez, est arrimée au marché planétaire. Tout s'achète et tout se vend, y compris l'air qu'on respire. Donc il n'y a pas un point sur la planète qui ne soit pas arrimé au marché. D'ailleurs, on voit bien ce que ça donne de nos jours. Cette virtualité du marché, c'est-à-dire que le pouvoir a l'air comme ça localisé dans les États, les entreprises ou quoi, mais c'est pas du tout le cas. Le pouvoir du marché, d'une certaine façon, délocalisé, je veux dire, il circule virtuellement.
Et puis on est suspendu,
sur la planète,
suspendu au-dessus du vide, d'une certaine manière.
Tout ça propulse sur les êtres humains une sorte comme ça d'esprit du vide, c'est-à-dire que les choses, à chaque fois qu'elles surgissent, toutes choses étant devenues des marchandises, à chaque fois qu'elles surgissent, si vous voulez, sur un point, elles sont programmées pour disparaître aussitôt et laisser place à d'autres. Ça provoque, si vous voulez, une impression de vide, de vacuité énorme. Warhol en était très conscient, il se mouvait, si vous voulez, à l'intérieur de cette vacuité. Mais ça n'empêchait pas qu'il connaissait une autre dimension du vide, qui est celle du sage oriental, qui est l'espace de l'extase, qui est l'espace, si vous voulez, où tout se suspend, où on peut faire le vide en soi, et où on est accroché à quelque chose qui est le néant, et dont Heidegger disait, en fait, le vrai nihilisme, c'est l'insuffisante pensée quant à l'essence réelle du néant. Si vous ne pensez pas réellement ce qu'est le néant au sens de cette instance qui peut être celle de l'extase, vous laissez dominer et arrimer par le néant au sens de la vacuité contemporaine. Voilà. Donc Warhol se meut dans ces deux dimensions. C'est très intéressant de voir. Alors lui, il utilise le mot vide un peu pour désigner les deux. Donc selon le contexte, on comprend de quoi il parle. Quand il dit le vide est en train de s'emparer de la planète, c'est effectivement cette vacuité contemporaine qui va expérimenter jusqu'à l'abrutissement, si vous voulez, dans les années 70, passant sa vie dans les boîtes de nuit avec la jet set, les gens célèbres dans un espèce de babillage mondain.
Mais lui, il faisait partie aussi de cette vie-là.
Mais il en fait partie, si vous voulez, mais il a une grande force. Et on ne peut rien comprendre à Warhol, si vous voulez. Il n'est pas un individu comme vous et moi, d'une certaine façon.
C'est aussi un mondain.
Il a un corps spécial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement passif. C'est quelqu'un qui est émotionnellement très froid. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de libido. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de désir. C'est à la fois une souffrance pour lui, psychiquement, c'est sûr. Hein. Il a envie de tomber amoureux, par exemple. Et il dit, j'arrive pas à tomber amoureux.
Bon. Il peut être amoureux que de son travail.
C'est un voyeur sexuellement. Il n'a pas de vie sexuelle. Et on pense que Warhol a été vierge toute sa vie. Bon. Ce qui n'empêchait pas ce qui ne veut pas dire qu'il était chaste, puisqu'il aimait bien regarder des scènes sexuelles, si vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui a un corps extrêmement spécifique, cette espèce de type albinos, toujours malade, qui a été toute malade toute son enfance, un corps très très fragile, tout blanc, spectral, comme un fantôme. Cette souffrance et ce complexe physique qu'il a eu, si vous voulez, en même temps est une grande force de capteur, de cristallisation, de tout, tout. Les gens le désirent énormément. Les gens sont comme des dingues avec lui. La Factory, c'est quand même des gens qui sont aimantés par lui. Ouais. Il les utilise, il les manipule, mais émotionnellement, si vous voulez, s'y attache pas plus que ça. Donc ça crée des drames, certains suicides, d'autres prennent des drogues. Enfin, c'est terrible les ravages que ça fait à cette époque. Mais voilà, si on comprend pas cette corporéité de
Warhol, des ravages qui étaient également dans l'air du temps, on peut pas dire.
Alors oui, c'est vrai que c'était l'époque,
que
les années 60,
qu'à la Factory.
Mais il y avait une grosse densité.
Cécile Guilbert, oui, dans cet endroit, je pense au mètre carré, plus qu'ailleurs. Parlons un peu justement de ce lieu qui est particulièrement représentatif de son génie polymorphe. Il y a tout fait, des films, des happenings, des photographies.
Oui, alors la Factory, c'est à la fois
plusieurs adresses.
Son atelier, bon, il y a la Factory historique, j'allais dire, qui est la Factory qu'on connaît, qui était toute tendue de murs argentés, etc. Tout se réfléchissait comme dans un miroir, qui sont la Factory des années 60 jusqu'en 68. Et après son attentat, Warhol va déménager la Factory, il la rend un peu moins, si vous voulez, un peu moins ouverte à tout vent comme un moulin, parce qu'il y avait trop de dingues qui sévissaient, c'était trop dangereux. Mais enfin, la Factory des années 60, c'est ça, un lieu d'expérimentation de tout, où bizarrement, Warhol, qui est constamment entouré d'assistants, d'égéries, il y a Eddie Sedgwick, il y a des gens du rock, il y a le Velvet, etc., considère qu'il est tout seul là-dedans, c'est-à-dire que il dit c'est formidable, la Factory, c'est un lieu où on est seul pour travailler. C'est bizarre parce qu'elle est tout le temps pleine de gens. Ce qui montre bien déjà quel rapport il a aux autres. Hein. C'est quand même assez spécial. Et d'une certaine façon, la Factory, c'est aussi un lieu d'expérimentation sexuelle, de drogue, de tas de choses. C'est là où s'invente le queer bien avant l'heure. C'est là où on a une sorte de cellule inversée d'Hollywood Parce qu'en fait, Warhol essaye de faire du cinéma à partir de 66. Il laisse un peu tomber les sérigraphies.
Il a fait beaucoup de films, d'ailleurs.
Il fait énormément de films. Il laisse tourner la caméra dans la factory. Bon, beaucoup de films sont tournés là. Mais c'est un anti-Hollywood, au sens où, évidemment, c'est des petits studios, des petits moyens. Et donc, la factory, voilà, c'est un peu tout ça. C'est le lieu de l'expérimentation. C'est là où on fait des sérigraphies, où on imprime la pellicule vierge, où on enregistre des conversations au magnétophone, où il se passe des tas de choses. Il se passe toujours quelque chose à la factory.
Alors, un autre exemple, je ne sais pas si ça a été conçu à la factory, de cette aptitude tout à fait polyvalente dans matière artistique, c'est cette espèce de show psychédélique qui est tout à fait dans l'air du temps, là aussi, créé en 1966. Son abréviation, c'est EPI, The Exploding Plastic Inevitable.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la...
Il y a de tout, là. Hein,
Si vous voulez, il faut raconter un peu pourquoi. Et c'est très intéressant, parce que les gens savent évidemment que Andy Warhol a été d'une certaine façon le mentor ou le parrain du Velvet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que...
Velvet Underground avec Nico.
Voilà. Alors, à l'époque, il a envie, si vous voulez, de laisser tomber un peu la peinture, il se lance dans le cinéma. Et il a envie aussi de faire des choses un peu multimédia. Il faut voir que Warhol est toute sa vie, en fait, un prophète de ce qu'on va avoir aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il a tout inventé avant nous. Je fais un aparté, mais c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des téléphones portables, des appareils numériques, Internet, où on est nous-mêmes connectés sans arrêt de façon électronique et numérique avec de la technique, des images et des sons. Lui, dès les années 60, il a un magnétophone en permanence sur lui, il a un Polaroid en permanence sur lui, il enregistre les conversations. C'est-à-dire que tout ça existe déjà. Ça a changé simplement qualitativement, mais... Et quantitativement, mais qualitativement, c'est déjà là, pardon.
La réalité prothétique.
Et donc,
il
a envie de faire un show multimédia où on projetterait à la fois des choses sur un écran, où on entendrait de la musique, où il y aurait des sons et lumières, où il y aurait de la danse, où il y aurait une sorte de mime théâtraux, etc. Donc, il cherche un groupe de rock. Il se dit, il me faut un groupe de rock pour faire ça. Là où il a une chance géniale, et c'est là où l'histoire devient savoureuse, c'est qu'il tombe sur le Velvet, qui est un excellent groupe. Mais en fait, il aurait pris n'importe quel groupe qui lui serait tombé sous la main. Il a de la chance que ça soit le Velvet, parce que le Velvet est un excellent groupe.
Qui était à ses débuts, hein, quand
qui
même.
Qui était à ses débuts, c'était mais qui pas... avait déjà ce son assez rappeux, très new-yorkais, très suintant.
Avec Lou Reed et Nico.
Avec Lou Reed et Nico. Et il demande, à partir du moment où il les engage pour faire son show, il oblige Lou Reed, qui ne s'entendait pas très bien avec Nico, parce qu'à l'époque, c'est Nico la chanteuse.
Oui.
Il oblige Lou Reed à écrire des chansons pour Nico, que Nico chante, etc. Donc évidemment, c'est les débuts du Velvet avec Nico et ce show qui est un peu abrutissant aussi, hein, il faut dire, qui est un show, il y a des kaléidoscopes, la musique est assourdissante, Gérard Malanga sur scène mime une danse du fouet, enfin, il y a une sorte comme ça d'espèce de transgression, de mime sexuel, et en même temps, c'est très éprouvant pour les nerfs, et Warhol en est bien conscient, mais vous voyez, comme quoi, c'est ça aussi, c'est à l'origine de quelque chose qu'on va connaître plus tard.
Alors, Nico, justement, votre...
Les raves, par exemple, je pense que c'est les raves, c'est l'ancêtre des raves, d'une certaine façon.
Oui, parce que ça durait...
On prend des drogues, des amphétamines, c'est pas les mêmes drogues, mais enfin, vous voyez, c'est essayer de, comme ça, désorganiser la sensorialité, l'anéantir d'une certaine façon. Des expériences assez nihilistes, hein, d'une certaine façon.
Oui, limite extrême, en tout cas. Et justement, je dis, Cécile Guilbert, le travail de graphisme de votre livre vous permet, à un moment donné, à propos de Nico, justement, de travailler comme ça sur les lettres et la correspondance, en quelque sorte, inverse, entre Nico et Icône.
Oui. Icône.
Ça me rappelle donc les propos de Warhol à propos de Nico, qu'il trouvait comme un ordinateur IBM qui aurait eu l'accent de Garbo.
Oui, là, il avait une voix. C'est vrai qu'elle a une voix tout à fait spectrale et tout à fait désincarnée. Hein. Ouais, je pense que c'est quelqu'un d'assez frigide, Nico, en fait. Hein. Donc ça a marché bien avec cette affaire. Mais à propos de Nico, il se trouve que mon mari s'appelle Nicolas. Je pense à ça parce que c'est vrai que la maquette est très importante.
C'est vous qui l'avez faite ? Non, vous avez été...
Non, j'ai conçu la maquette avec mon mari qui est graphiste et qui l'a mise en page et qui a trouvé cet orange magnifique et ce noir.
Ça a les deux couleurs sinon uniques. Hein,
chaque chapitre est rythmé par effectivement une citation de Warhol et on développe après. Et parfois, effectivement, au fil et à mesure qu'on tourne les pages, il y a des significations qui apparaissent selon que certains écrans avec certains mots apparaissent.
Voilà. Et à propos de ce spectacle, ce show dont nous parlions à l'instant, EPI, donc dans... dans son livre le plus célèbre, Medium is the Message, The Medium is the Message, McLuhan a donc, vous le rapportez dans votre livre, Cécile Gilbert, illustré donc une photo de ce show par la formule qui résume sa célèbre prophétie. Le temps s'est arrêté, l'espace s'est dissous. Nous vivons aujourd'hui dans un village global, et il ajoute un happening simultané. Voilà pour.
Mais oui, parce qu'en fait, quand on dit comme on a dit tout à l'heure, si vous voulez que le vide s'empare de la planète, si le vide s'empare de la planète, parce que toute la planète est arrimée à un marché planétaire précisément, c'est que ça plus les procédures techniques de temps réel, de communication continue en boucle, etc. provoque une désorganisation des catégories anciennes de l'espace et du temps. Si vous voulez, on est dans un présent perpétuel. La catégorie du passé et de l'avenir n'ont plus de sens véritablement pour l'humain, qui est arrimé perpétuellement au présent par la communication, la technique et les radiations continues du marché des images. Quant à l'espace, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une sorte comme ça d'ubiquité planétaire où on peut maintenant, puisque avec Google Earth, vous pouvez être partout de votre ordinateur.
Sauf que vous n'êtes pas là au même temps.
Certes, mais on voit bien qu'il y a aussi comme ça une mutation de l'espace. On est vraiment dans une autre temporalité, c'est proprement métaphysique, et Warhol l'a pressenti avant tout le monde.
Ouais. Alors, il meurt jeune, Andy Warhol, finalement. Et d'une manière, on va pas le faire mourir à la fin de l'émission là, mais on peut évoquer cette mort. Je parlais du mythe aussi au début. C'est frappant dans votre livre. Vous avez plusieurs témoignages de personnes qui ont en quelque sorte douté de son décès au moment de l'annonce de sa mort.
Mais oui, parce que
ça c'est la meilleure illustration du mythe.
Parce que de nos jours, vous ne pouvez plus. Guy Debord, et c'était juste. C'est-à-dire que de nos jours,
vous avez aussi écrit un livre sur Guy Debord.
Oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais de nos jours, vous ne pouvez plus être sûr de quoi que ce soit que vous n'ayez vous réellement vécu. C'est-à-dire qu'on peut vous raconter n'importe quoi aujourd'hui. C'est ça qui est absolument insensé. C'est-à-dire que les procédures, le statut de la vérité aussi a muté. Donc si on vous dit qu'Andy Warhol est mort, mais après tout, qui vous le prouve si vous n'avez pas vu son cadavre? Bon, alors c'est vrai que pour s'amuser, certains avaient dit qu'il n'était pas mort. Mais réellement, il est mort d'une opération qui a mal tourné.
Ouais, qui s'est achevée dans une crise cardiaque.
Qui s'est achevée dans je ne sais pas trop dans quoi, mais enfin bon, il a
Vous avez l'air de sous-entendre dans le livre que...
Non mais c'est vrai, je veux dire, on le sait.
À cause de négligence.
Oui, on le sait, il y avait une infirmière chinoise qui devait veiller sur lui, il était en soins intensifs, il y avait des paramètres qui devaient être surveillés. Cette femme, à un moment, elle est sortie de sa chambre, elle est allée ailleurs, elle est allée lire la Bible, paraît-il, dans une autre pièce, et puis quand les moniteurs électroniques se sont mis à s'affoler, elle n'était pas là, et donc voilà, Warhol est mort. Donc s'il est mort d'une négligence médicale, normalement il devrait être vivant. Ceci étant, depuis son attentat...
Il avait 80 ans.
Voilà, depuis son attentat, il souffrait vraiment de l'abdomen, et donc c'est cette opération qui était liée aux séquelles de son attentat, si vous voulez, elle a fini par l'emporter.
Alors, dans ce laps de temps, il a quand même eu le temps de faire beaucoup de choses. Vous publiez dans votre livre, Cécile Gilbert, plusieurs listes, des listes de tableaux, bien entendu, de titres. Je sais que c'est une sélection, mais finalement, pour un peintre, puisque c'est quand même au départ un peintre, je pense que c'est ainsi qu'on peut le définir, c'est pas une production faramineuse.
C'est
vrai qu'il faisait beaucoup d'autres choses, donc ça peut expliquer.
Mais d'abord, il les faisait en plusieurs exemplaires, c'est ça qui est absolument dément. C'est-à-dire que quand vous avez déjà 60 prototypes, après,
parfois,
ils sont déclinés de façon multiple. Donc ça finit par faire beaucoup de choses. C'est une usine, en fait. La factory, c'est une usine. Et il inaugure, si vous voulez, ce statut de l'artiste qu'on voit aujourd'hui contemporain. Quand vous voyez un type comme Damien Hirst, il a 100 assistants, il a des ateliers qui sont grands comme des aéroports. Jeff Koons, c'est pareil. Si vous voulez, tous les artistes de business aujourd'hui, dont Warhol est le grand-oncle, ou le grand-père, comme on veut. Enfin, je préfère dire le grand-oncle, parce que c'est bizarre, Warhol pourrait pas avoir d'enfant, mais... C'est ce modèle-là, si vous voulez, le modèle de la production industrielle. Quoi. C'est
l'œuvre d'art à l'époque de sa
reproductibilité
mécanisée.